Chapitre 28. La grotte de Pouzol, la grotte du chien. Pendant cette exploration, notre cocher, que notre longue absence ennuyait, était entré dans un cabaret pour se distraire. Lorsque nous redescendîmes vers Kiaï, nous le trouvâmes ivre, comme aurait pu l'être Horace ou Gallus. Cette petite infraction aux règles de la tempérance retomba sur nos pauvres chevaux, qui, excités par le fouet de leur maître, nous emportèrent au triple galop vers la grotte de Pouzols. Nous eûmes beau dire que nous voulions nous arrêter à l'entrée de cette grotte et la traverser dans toute sa longueur, notre Thomédon, qui croyait son honneur engagé à nous prouver par la manière pimpante dont il conduisait qu'il n'était pas ivre, redoubla de coups et nous disparûmes dans l'ouverture béante comme si un tourbillon nous emportait. Malheureusement, à peine avions-nous fait 100 pas dans ce corridor de l'enfer, que nous accrochâmes une charrette. Le cocher, qui se tenait debout derrière nous, sauta par-dessus notre tête. Nous sautâmes par-dessus celle des chevaux. Les chevaux s'abattirent. Une roue du coricol continua sa route, tandis que l'autre, engagée dans le moyeu de la charrette, s'arrêta court avec le reste de l'équipage. Je crus que nous étions tous anéantis. Heureusement, le dieu des ivrognes, qui veillait sur notre cocher, daigna étendre sa protection jusqu'à nous. Si indignes que nous en fussions, nous nous relevâmes sans aucune égratignure. Les traits seuls du Bilancino étaient cassés. On se rappelle que le Bilancino est le cheval qui galope près du timonier enfermé dans les brancards. Notre conducteur nous déclara qu'il lui fallait 1 quart d'heure pour remettre en ordre son attelage. Nous le lui accordâmes, d'autant plus volontiers qu'il nous fallait à nous le même temps pour visiter la grotte. Du temps de Sénèque, où il n'y avait pas de chemin de fer et où par conséquent on ne perçait pas les montagnes, mais où l'on montait tout simplement par-dessus, la grotte de Pouzols était une grande curiosité. Aussi s'en préoccupe-t-il plus que de nos jours le ferait le dernier ingénieur des ponts et chaussées. Et poétisant cet espace de cave, qui n'est pas même bonne à mettre du vin, l'appelle-t-il une longue prison, et disserte-t-il sur la force involontaire des impressions. Quant à nous, je ne sais si la cabriole que nous venions de faire avait nuit à notre imagination, mais n'en déplaise à Sénèque, nous ne fûmes impressionnés que par l'abominable odeur d'huile que répandaient les 64 réverbères allumés dans ce grand terrier. Malgré ces 64 réverbères, il y a une telle obscurité dans la grotte de Pouzols que ce ne fut que guidé par la voix avinée de notre cocher que nous parvînmes à retrouver notre coricole. Nous remontâmes dedans, notre cocher remonta derrière, et comme pour prouver à nos malheureux chevaux que ce n'était pas lui qui avait tort, il débuta par le plus splendide coup de fouet que jamais chevaux aient reçu depuis les coursiers d'Achille, qui pleurèrent si tendrement leur maître, jusqu'aux mules de Don Miguel, qui faillirent si irrespectueusement casser le cou au leur. Le Bilancino et le timonier firent un bond qui manqua de démantibuler la voiture. Mais à notre grand étonnement, et quoique tous deux parussent faire des efforts inouïs pour remplir leur devoir, nous ne bougeâmes pas de place. Le cocher redoubla, en accompagnant cette fois le cinglement de la lanière de ce petit sifflement habituel aux cochers italiens, et avec lequel ils semblent galvaniser leurs chevaux. Les nôtres, à cette double admonestation, redoublèrent de soubresauts et de piétinements, mais ne firent ni un pas en avant, ni un pas en arrière. Cependant, comme selon toutes les règles de la dignité humaine, ce n'est jamais aux chevaux à 2 pieds à céder aux animaux à 4 pattes, notre homme s'entêta et allongea à son équipage un 3e coup de fouet en accompagnant ce coup de fouet d'un juron à faire fendre le posilippe. L'impression fut grande sur les malheureux quadrupèdes. Ils se cabrèrent, hennirent, firent des écarts à droite, firent des écarts à gauche, mais d'un seul pas en avant, il n'en fut pas question. Il y avait évidemment quelque mystère là-dessous. J'arrêtai le bras de Gaetano, levé pour un 4e coup de fouet, et je l'invitai à aller s'assurer, à tâtons, des causes qui nous enchaînaient à notre place. Car de voir avec les yeux, il n'y fallait pas songer. Gaetano voulut résister et prétendit que les chevaux devaient partir, et qu'ils partiraient. Mais à mon tour, j'insistai en lui disant que, s'il ajoutait un mot, je l'enverrais promener lui et son attelage. Gaetano, menacé dans ses intérêts pécuniaires, descendit. Au bout d'un instant, nous l'entendîmes pousser des soupirs, puis des plaintes, puis des gémissements. « Eh bien, lui demandai-je, qu'y a-t-il ? Oh, excellence ! Après, oh, malor ! Quoi ? Oh, perdato la testa del mio cavallo ! Comment ? Vous avez perdu la tête de votre cheval ? L'eau perduta ! Et les plaintes et les gémissements recommencèrent. « Et duquel des deux avez-vous perdu la tête ? » demandai-je en éclatant de rire. « Del povero Bilancino, Excellenza. Ce gredin-là est ivre mort, » dit Jada. « Eh bien, » demandai-je après un moment de silence, « est-elle retrouvée ?»« Oh non, s'y trouvera piu, mai, mai, mai. »« Voyons, attendez, je vais l'aller chercher moi-même. » Je sautai à bas du coricole, je fis à tâtons le tour de l'attelage et je trouvai mon homme, qui serrait désespérément dans ses bras la croupe de son cheval. Il l'avait attaché à l'envers. On comprend le résultat naturel de cette combinaison. À chaque coup de fouet nouveau, le porteur tirait au nord et le Bilancino au midi. Or, comme c'est une règle invariable que deux forces égales opposées l'une à l'autre se neutralisent l'une par l'autre, il en résultait que plus nos chevaux faisaient d'efforts pour avancer, l'un vers l'entrée de la grotte, l'autre vers la sortie, plus solidement nous restions comme amarré à la même place. J'annonçai à Gaétane que la tête de son cheval était retrouvée. Je lui en donnai la preuve en lui mettant la main dessus, et je lui signifiai que, de peur de nouveaux accidents, nous irions à pied jusqu'à la grotte du chien, où il était invité à nous rejoindre si toutefois il en était capable. Il y a cependant des jours où cette grotte est splendidement éclairée. Ce sont les jours d'équinoxe. Comme le soleil se couche exactement en face d'elle, il la transperce de son dernier rayon et la dore merveilleusement de l'une à l'autre de ses extrémités. Il nous était arrivé tant d'encombres dans cette malheureuse grotte que ce fut avec un certain plaisir que nous retrouvâmes la lumière. Afin sans doute de dédommager le voyageur de la perte qu'il a faite momentanément, la nature, à la sortie de ce long et sombre corridor, se présente coquette, animée et pleine de fantasques accidents. Cependant, comme un effroyable soleil dardait sur nos têtes, nous ne nous arrêtâmes pas trop à les détailler, et sur l'indication d'un passant, laissant la route, nous prîmes un petit chemin qui conduit au lac d'Agno. Gaetano s'était piqué d'honneur. Au bout d'un instant, nous entendîmes derrière nous le bruit des roues d'une voiture et le pétillement des sonnettes de deux chevaux. C'était notre coricole et notre cocher qui nous rejoignait, le coricole parfaitement rafistolé à l'aide de cordes, de ficelles et de chiffons, le cocher à peu près dégrisé. Comme nous étions en âge, nous ne nous fîmes pas prier pour reprendre nos places. Et cette fois, grâce à l'harmonie de notre attelage, nous reprîmes notre allure habituelle, c'est-à-dire que nous allâmes comme le vent. Au bout d'un instant, deux chiens se mirent à courir devant notre coricole. Et un homme monta derrière. D'où sortait-il ? D'une pauvre chaumière située à gauche de la route, je crois. Des deux quadrupèdes, l'un était nankin et l'autre noir. Au bout d'un instant, le quadrupède nankin donna de signes visibles d'hésitation. Il s'arrêtait, s'asseyait, restait en arrière, puis reprenait son chemin, toujours plus lentement. Son maître commença à le siffler, puis l'appela, puis enfin, voyant des signes de rébellion marqués, descendit. Le coupla avec le chien noir et au lieu de remonter derrière nous, marcha à pied. Je demandai alors quel était cet homme et ses chiens. On nous répondit que c'était l'homme qui avait la clé de la grotte et les deux chiens sur lesquels on faisait successivement les expériences, c'est-à-dire le grand prêtre et les victimes. Le mot successivement m'éclaira sur les terreurs du chien nankin et sur l'insouciance du chien noir. Le chien noir descendait de garde. Le chien nankin était de faction. Voilà pourquoi le chien nankin voulait à toute force retourner en arrière, et pourquoi il était indifférent au chien noir d'aller en avant. À la première visite d'étrangers, les rôles changeraient. À mesure que nous approchions, les terreurs du malheureux chien nankin redoublaient. Il opposait à son camarade une véritable résistance. Et comme ils étaient à peu près de la même taille et par conséquent de la même force, que l'un n'avait que le désir d'obéir à son maître, tandis que l'autre avait l'espérance d'y échapper, le sentiment de la conservation l'emporta bientôt sur celui du devoir. Et au lieu que ce fût le chien noir qui continua d'entraîner le chien nankin vers la grotte, Ce fut le chien Nankin qui commença de ramener le chien noir vers la maison. Ce que voyant, le propriétaire des deux animaux jugea son intervention nécessaire et se mit en marche pour les rejoindre. Mais à mesure qu'il approchait d'eux, tandis que le chien Nankin redoublait d'efforts pour fuir, le chien noir, qui n'était pas bien sûr d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour retenir son camarade, donnait à son tour des signes d'hésitation, de sorte que lorsque le maître étendit le bras, croyant mettre la main sur eux, tous deux partirent au grand galop, reprenant la route par laquelle ils étaient venus. L'homme se mit à trotter après eux en les appelant. Inutile de dire que plus il les appelait, plus ils couraient vite. Au bout d'un instant, hommes et chiens disparurent à un tournant de la route. Milord avait regardé toute cette scène avec un profond étonnement. En voyant apparaître deux individus de son espèce, il avait d'abord voulu se jeter dessus pour les dévorer, mais quelques coups de pied de Jadin l'avaient calmé, et il s'était décidé, quoique avec un regret visible, à devenir simple spectateur de ce qui allait se passer. Ce qui devait arriver arriva. Les deux chiens s'arrêtèrent à la porte de leur chenil. Leur maître les y rejoignit, passa une corde au cou du chien Nankin, siffla le chien noir, et 10 minutes après sa disparition, nous le vîmes reparaître précédé de l'un et traînant l'autre. Cette fois, il n'y avait pas à s'en dédire. Il fallait que la malheureuse bête accomplît le sacrifice. En arrivant à la porte de la grotte, il tremblait de tous ses membres. La porte de la grotte ouverte, il était déjà à moitié mort. À la porte de la grotte étaient 5 ou 6 enfants, si déguenillés qu'à part les indiscrétions des vêtements, il était fort difficile de reconnaître leur sexe. Chacun tenait un animal quelconque à la main, l'un une grenouille, l'autre une couleuvre, celui-ci un cochon d'Inde, celui-là un chat. Ces animaux étaient destinés au plaisir des amateurs qui ne se contentent pas de l'évanouissement et qui veulent la mort. Les chiens coûtent cher à faire mourir. 4 piastres par tête, je crois. Tandis que pour un carlin, on peut faire mourir la grenouille, pour 2 carlins la couleuvre, pour 3 carlins le cochon d'Inde et pour 4 carlins le chat. C'est pour rien, comme on voit. Cependant, un vice-roi, qui sans doute n'avait pas d'argent dans sa poche, fit entrer dans la grotte 2 esclaves turcs et les fit mourir gratis. Tout cela est bien hideusement cruel, mais c'est l'habitude. D'ailleurs, les animaux en meurent, c'est vrai, mais aussi les maîtres en vivent. Il y a si peu d'industrie à Naples qu'il faut bien tolérer celle-là. La grotte peut avoir 3 pieds de haut et 2,5 pieds de profondeur. J'introduisis la tête dans la partie supérieure, et je ne sentis aucune différence entre l'air qu'elle contenait et l'air extérieur. Mais en recueillant dans le creux de la main l'air inférieur, et en le portant vivement à ma bouche et à mon nez, je sentis une odeur suffocante. En effet, les gaz mortels ne conservent leur action qu'à la hauteur d'un pied à peu près du sol. Mais là, en quelques secondes, ils asphyxiaient l'homme aussi bien que les animaux. Le tour du malheureux chien était venu. Son maître le poussa dans la grotte sans qu'il opposât aucune résistance. Mais une fois dedans, son énergie lui revint. Il bondit, se dressa sur ses pieds de derrière pour élever sa tête au-dessus de l'air métifique qui l'entourait. Mais tout fut inutile. Bientôt un tremblement convulsif s'empara de lui, il retomba sur ses 4 pattes, vacilla un instant, se coucha, raidit ses membres, les agita comme dans une crise d'agonie, puis tout à coup resta immobile. Son maître le tira par la queue hors du trou. Il resta sans mouvement sur le sable, la gueule béante et pleine d'écume. Je le crus mort. Mais il n'était qu'évanoui. Bientôt l'air extérieur agit sur lui. Ses poumons se gonflèrent et battirent comme des soufflets. Il souleva sa tête, puis l'avant-train, puis le train de derrière. Demeura un instant vacillant sur ses 4 pattes, comme s'il eût été ivre. Enfin, ayant tout à coup rassemblé toutes ses forces, il partit comme un trait et ne s'arrêta qu'à 100 pas de là, sur un petit monticule, au sommet duquel il s'assit, regardant tout autour de lui avec la plus prudente et la plus méticuleuse attention. Je crus que c'était fini et que son maître ne le rattraperait jamais. Je lui fis même part de cette observation. Mais il sourit de l'air d'un homme qui veut dire « Oh, allons, 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 vous n'êtes pas encore fort sur les chiens. » Et tirant un morceau de pain de sa poche, il le montra au patient, qui parut se consulter quelques secondes, retenu entre les craintes et la gourmandise. La gourmandise l'emporta. Il accourut en remuant la queue et dévora sa pitance comme s'il avait parfaitement oublié ce qui venait de se passer. Le chien noir avait regardé cette opération gravement assis sur son derrière, en tournant la tête et ayant l'air de dire à part soi, comme l'ivrogne de Charlet, « Voilà pourtant comme je serai dimanche. » Quant à Milord, il était fourré sous la banquette du Coricolle, où il paraissait n'avoir qu'une crainte, celle d'être découvert. Je demandai le nom des deux infortunés quadrupèdes dont la vie était destinée à s'écouler en évanouissement perpétuel. Ils s'appelaient Castor et Pollux, sans doute en raison de ce que, pareil aux deux divins gémeaux, ils sont condamnés à vivre et à mourir, chacun à son tour. J'eus quelque envie d'acheter Castor et Pollux, mais je songeais que si je leur donnais la liberté, ils deviendraient enragés, et que si je les gardais, ils ne pouvaient pas manquer d'être dévorés un jour ou l'autre par Milord. Je me décidai donc à ne rien changer à l'ordre des choses, et à laisser à chacune le sort que la nature lui avait fait. Quant à la grenouille, à la couleuvre, au cochon d'Inde et au chat, nous déclarâmes que nous n'étions aucunement curieux de continuer sur eux les expériences, et que celles que nous avions faites sur Castor nous suffisaient. Cette décision fut accompagnée d'une couple de carlins que nous distribuâmes à leurs propriétaires pour les aider à attendre patiemment des voyageurs plus anglais que nous.